Parlons Sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
RTVFM.
Bonsoir à tous, bienvenue sur le 102.2. Nous sommes bien sûr en direct depuis le studio de Carpentras-Serre. Et c'est vraiment avec un immense plaisir qu'on vous retrouve pour une nouvelle saison, 5e saison de mémoire. On doit être à la 122e émission. Et c'est toujours vraiment un plaisir de vous retrouver tous les lundis soirs de 18h30 à 20h. Bien sûr, j'ai mes amis animateurs qui sont avec moi. Valérie, salut Valérie.
Bonsoir Lionel, bonsoir à tout le monde.
Et Alexandre,
salut. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous.
Ça va Alexandre ?
Ça va, nickel, la forme, content de revenir.
Ouais, bah écoute, on est tellement content de te voir aussi.
Eh ouais. Eh oui, rugby et, donc, et foot.
On s'est dit, on s'est dit, on va te faire plaisir. Aujourd'hui, émission 100% rugby.
Ah bah nickel.
Rugby à 15.
Non.
Ah non, je rigole. Justement, on va en parler justement. Non, c'est du rugby à 13, bien entendu. Carpentras, c'est le berceau du rugby à 13.
Bien sûr.
Donc voilà, donc, en tout cas, je suis vraiment ravi de vous retrouver, mes amis. À la technique, bien sûr, notre technicien préféré, Bruno. Ça va, Bruno ?
Ça va.
Ça va, bon, tant mieux. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, pour la première émission de l'année, nous allons parler de rugby à 13. Et on est vraiment content, Valérie, parce qu'ils sont partenaires de la radio, le rugby à 13. Et c'est vraiment un grand honneur de les avoir avec nous aujourd'hui.
Et oui, on a voulu, pour la première, avoir nos partenaires, donc le rugby à 13. Et aujourd'hui, on a un président, puisqu'il y en a trois.
Un des présidents,
voilà.
Jean-Marc Terragnaud. Voilà. Ça va Jean-Marc ?
Très bien, très bien.
Et puis, t'es bien accompagné, hein ?
Oui, j'ai le capitaine de l'équipe à côté de moi, avec le coach sportif, M. Max Pala.
Donc Maxime Pala, manager de l'équipe première et des juniors. On est ravis de t'avoir avec nous.
Également.
Et Vincent Conta, le capitaine de l'équipe première. Ça va Vincent ?
Ça va et vous ?
Bah écoute, impeccable. Donc voilà, donc on va parler de rugby, mais avant cela, les résultats sportifs du week-end, il y en a eu pas mal parce que la saison repart sur les chapeaux de roue.
Oui, mais je ne vais pas tous les donner parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais je vais donner essentiellement les copains qui m'ont transmis les résultats. Donc je vais commencer par le basket avec l'ABC de Carpentras. Carpentras recevait l'île sur la Sorgue. Donc ça, c'était en poussin U11, donc 2 à 42 donc pour Carpentras. Ensuite, ils ont rencontré le Thor. Là, ils se sont inclinés 16 à 34. Ensuite, donc l'île sur la Sorgue rencontrait le Thor 42 à 6. En brassage, Benjamin U13, donc Carpentras recevait l'île sur la Sorgue 26 à 15. Carpentras, donc là aussi, recevait le Thor 34 à 16. Il y avait la Coupe de Provence senior garçon. Donc Carpentras s'est déplacé au niveau du club Millois, donc 77 à 50 pour Carpentras. Et en senior fille, enfin, Vitrolles, donc recevait notre équipe de Carpentras. Et Carpentras a largement battu cette dernière, 75 à 48. Handball, donc toujours avec le club de Mazan cette fois-ci, en National 2, donc recevait le Pouzin. Et Carpentras s'est imposé au tir à but 30 à 29. En Coupe de France, là, c'est l'équipe territoire, donc l'entente Carpentras-Mazan, donc qui l'a emporté face à Arles d'une toute petite longueur, 25 à 24. En moins de 17 ans, PACA, la garde recevait Mazan. Et là, Mazan s'est incliné 20 à 29. En Coupe de Provence masculine, Carpentras donc s'est déplacé à Ramon, 32 à 28. On passe au football, donc en Régional 1, Pernes recevait Carqueiranne et Pernes s'est incliné 2 à 3. Pernes est quatrième avec 3 points et au classement général, c'est Carqueiranne le premier, suivi de Menton et de Istres. En District 1, deuxième journée, donc Vedaine-Carpentras 0 à 2, Pernes-Boulbon 0 à 3, Orange-Montfavé 2 à 1. Et au classement général, Orange est premier avec 8 points, suivi de Carpentras de Courthézon, toujours avec 8 points, et Pernes est dernier avec 2 points. En District 2, Poule B, Gadagne, Saint-Didier 2-0, Saint-Jean-Grèce contre Monteux 0 à 6. Au classement général, Aubunet premier avec 8 points, Monteux 3e avec 6 points et Saint-Didier 13e et avant-dernier avec 2 points. En District 3, Poule A, Vedaine-Saint-Didier 4 à 2, Altane-Monteux 2 à 2, Loriol-Violès 5 à 0. Au classement général, Monteux est premier avec 6 points, Loriol 8e avec 5 points et Saint-Didier 10e avec 5 points. En poule B, Jonquière rencontrait Caron 0-1. Le Thor, lui, rencontrait Carpentras 0-1. Sarian Le Bosquet 2-1. Et au classement général, Caderousse est premier avec 8 points. Caron 2e et Carpentras 3e avec également 8 points. En motoball, championnat élite 1. 3 rencontrés Camaret 3-2, Houlgate Vaugecourt 5 partout, Monteux Carpentras 2-6. Au classement général, Neuville est premier, Carpentras 2e avec 32 points, 3e, Camaret ainsi de suite, et Monteux est 5e. La semaine prochaine, donc, les juniors rencontreront Valréas à 17h et l'équipe 1 rencontrera Neuville. Donc ça sera un derby pour la première place. Donc,
et voilà. Tu parlais de motoball.
Voilà, tout à fait.
Et c'est vrai qu'honnêtement, ça sera un derby très, très, très important.
Oui, oui. Hein,
c'est-à-dire que ça se fera donc à Carpentras, mm-hmm. au stade René Ponce, à Serres. C'est une finale avant l'heure, on va dire. Hein, donc, c'est vraiment l'occasion justement de voir un match de motoball. Donc, j'invite tous les auditeurs qui ne connaissent pas le motoball à venir. Donc, c'est samedi, hein, c'est ça, c'est samedi prochain.
Samedi, voilà, à 17h.
Donc, voilà, donc, c'est vraiment une finale avant l'heure. Et ça vaut vraiment le coup de venir voir le match.
Enfin, en tennis de table, hein, en pré-régional, Carpentras gagne 8-6 contre Sorgues. En D1, poule A, donc Carpentras la perd 5-9 contre Morière. En D1, poule B, Carpentras gagne 9-5 contre Cavaillon. En D3, poule A, Carpentras perd 3-11 contre Entraigues. Et enfin, en D3, poule B, Carpentras gagne 9-5 contre Entraigues. Voilà, maintenant je vais laisser la place, on va aller dire, à mon ami Alex.
Voilà, donc oui. Il va parler des résultats nationaux, mais par contre, on va essayer d'introduire, je vais y arriver, une nouvelle rubrique, c'est le programme du week-end prochain. On en a donné une partie à l'instant, mais là, il y a des rencontres sportives, football, des équipes locaux.
J'ai donné Mazan
locaux.
Aussi, Mazan, qui est
voilà,
important.
Mais là, il y a le foot aussi, et on a le rugby à 13 que tu vas pouvoir parler.
On en reparlera en plus après. Donc, prochaine rencontre, donc dimanche, au niveau foot. Donc Caron va jouer contre Caderousse, donc dimanche à 15h. Carpentras affronte l'équipe de Gémenos et un rugby à 13, donc c'est ce dimanche-là aussi. J'invite tout le monde à venir au stade de la Roseraie pour le match Carpentras-Entraigues. Et un match très important pour le RCC 13. Le RCC 13 qui a d'ailleurs joué ce week-end contre Lyon, Lyon-Villeurbanne, et ils se sont imposés 26-20. Dans les autres résultats, on peut aussi dire que Entraigues a perdu contre Bao à domicile 36-12. On va passer maintenant au foot, à la Ligue 1, parce que ça a été encore très mouvementé ce week-end. Monaco a fait un petit match nul à domicile contre Montpellier, un but partout. Bon, Paris continue à martyriser la Ligue 1 en gagnant 6-2 contre Bordeaux. Il menait 5-1 à la mi-temps.
Bordeaux, il a bien maintenu quand même en deuxième mi-temps, donc il a tenu le coup.
Il perdait 5-1 à la mi-temps en même temps.
C'est bien quand même. Ils ont pris qu'un.
C'est vrai qu'ils ont pris une super raclée.
Au final, ils en ont pris 6. Quoi. Donc,
oui, mais bon, en première mi-temps, ils en ont pris 5.
On ne savait même pas qu'on pouvait marquer autant de buts sur un match. Non, c'est vrai. C'est comme du rugby.
La Ligue 1, c'est n'importe quoi maintenant. Et dans les autres gros matchs, à noter que Lyon est toujours en mauvaise forme. Hein, après 2 ou 3 matchs nuls d'affilée, ils ont encore fait match nul contre Angers, 3 buts partout. Et là, la rencontre principale, c'est la rencontre qu'il y a eu hier soir entre Nice et Marseille. Une victoire de Marseille très intéressante, 4-2. Marseille était menée 2-0 au bout d'un quart d'heure de jeu, c'était assez difficile à voir. Et enfoncer le clou en début de deuxième mi-temps, ce qui leur a permis de gagner ce match. Donc au classement, Paris, Paris est premier, hein, ça c'est sûr maintenant. Ils sont déjà promis jusqu'à la 38e journée. Ça c'est acquis maintenant. Monaco est deuxième, Marseille est troisième, Nantes quatrième. Caen 5e, à noter que dans les trois derniers, Lille 18e. Maintenant, on va passer au top 14 parce qu'il y a eu du top 14 ce week-end. La section paloise recevait le Stade Français et c'est le Stade Français qui s'est imposé 25-23. Toulon s'est relevé en gagnant La Rochelle 26-20. Bordeaux-Bègle s'est imposé très largement sur la pelouse d'Oyonnax 39-9. Le Stade Toulousain réalise une bonne opération en s'imposant face à Agen 30-10. Et la surprise du week-end, c'est Lyon qui s'est imposé sur la pelouse du Racing Métro 20-17. À noter aussi les grosses performances de Montpellier et de Castres. Montpellier qui s'est imposé contre Brive 54-10. Castres a battu le champion en titre Clermont 29-23. Au classement, on peut constater quelques surprises. Donc on a Montpellier premier, Lyon deuxième, Troisième Toulouse, quatrième Bordeaux-Bègles, cinquième La Rochelle, sixième Toulon.
Très bien. Voilà. Donc nous sommes ravis d'accueillir nos invités. Hein, c'est le Racing Club Carpentras 13 du Comtat avec bien sûr un nouveau coprésident, Jean-Marc Terragno. Donc bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir.
Et tu es accompagné de fidèles déjà du rugby, mais en plus de la radio parce qu'on les reçoit régulièrement. Donc oui. Tout d'abord Maxime Pala, manager sportif de l'équipe première et des juniors.
Ah, merci, bonsoir à tous.
Bonsoir Maxime. Et Vincent Conta, le capitaine de l'équipe première de Carpentras.
Bonsoir.
Voilà, donc les présentations sont faites. Maintenant, vous savez pourquoi on est arrivé en plein milieu de votre déjeuner. Donc maintenant, on va pouvoir continuer et avancer. T'avais quoi d'autre comme résultat?
Alors non, j'avais plus de résultats, j'avais fini les résultats, j'avais juste les rencontres à venir si tu veux.
Bah écoute, non, on fait une petite pause musicale si t'es d'accord.
Ah bah écoute, pas de soucis.
Allez, c'est parti.
Ça me dérange pas.
À tout de suite. I heard that sound when the walls came down. I was thinking about you. About you. Where my skin grows old. Where my breath runs cold. I'll be thinking about you. About you. Seconds from my heart. Put it from the door. Helpless I surrender. Shackled by your love. Holding me like this. Poison on your lips. Only when it's over. The silence hits so hard. Cause it was almost love. It was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound and the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old and my breath comes cold, I'll be thinking about you, about you. When I run out of air, it was almost love, it was almost. We bleed ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone. Knowing that we nearly fell so far, now it's hard to tell. Yeah, we came so close. It was almost love. It was almost love. It was almost love. When I heard that sound. When the walls were caving in, but I see you on the other side. We can try all over again. When I love, it was almost love. It was almost love. It was almost love.
Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, donc nous sommes de retour dans le studio. Nous sommes bien sûr en direct, vous avez pu le remarquer, parce qu'il y a eu quelques petits aléas en début d'émission. Tout est rentré dans l'ordre. Et donc, je reviens vers toi, Alexandre, parce que tu avais eu quelques petites annonces à faire.
Oui, parce qu'en fait, donc d'habitude, l'année dernière, j'avais l'occasion de faire le sportif de la semaine. Mais là, en cette première de la saison, je me suis dit qu'il fallait donner un peu quelques informations aux gens au cas où ils auraient loupé certaines choses. Bon, même s'ils vont être au courant de ce que je vais dire, c'est les transferts les plus importants qu'il y a eu cet été. Parce qu'on a vu que le foot a littéralement explosé au niveau des chiffres. Ça a été assez n'importe quoi. Et du coup, on va essayer de remettre un peu tout ça dans les transferts, on va dire, les plus importants. Donc pour moi, il y en a quelques-uns à retenir. Pour moi, il y en a 5 ou 6 à retenir. Voilà,
les plus importants ou les plus chers?
Les plus importants et les plus chers.
Les plus chers. C'est important.
Ah bah quand même.
C'est important.
Alors, en important, on avait un grand joueur qui était à Monaco l'année dernière, qui est à Manchester City cette saison. Il s'agit de Bernardo Silva. Il a joué pendant 2 ou 3 saisons en Ligue 1. Il a été exceptionnel. Il a été revendu pour 50 millions d'euros. Donc ça, c'est un prix qui... Tout le monde a dit que ça a été assez faible par rapport au prix du marché. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est parti très tôt, au début de Mercato, et les chiffres du Mercato ont explosé en milieu de Mercato. Donc ça fait qu'il est parti pour une somme relativement faible. S'il serait parti en août, il aurait été vendu pour 100 millions au moins. Donc c'est du grand n'importe quoi. Autre transfert important à retenir, c'est celui d'Alexandre Lacazette. C'était l'attaquant français qui jouait à l'Olympique Lyonnais, qui était également son club formateur. Donc il avait demandé son départ de Lyon cet été et il avait été transféré à Arsenal pour 53 millions d'euros. Ce qui était le transfert le plus cher de l'histoire d'Arsenal. Donc c'est pour remplacer notamment Olivier Giroud pour cause de niveau. Parce que,
il joue plus.
Bah c'est pas qu'il joue plus, mais c'est que Giroud, il est mauvais.
Il est mauvais, Giroud.
Arrêtez de dire qu'il est bon, Giroud. Faut arrêter.
C'est une appréciation personnelle.
Oui.
Mais je suis désolé. Il a pas fait une bonne saison. Il mérite pas d'être en équipe de France. Enfin bon, pas revenir sur le sujet.
Il joue un peu la girouette.
Il joue au mannequin, il joue pas au football.
Ouais, facile.
Ensuite, un transfert important, c'était Benjamin Mendy. Alors lui, c'était un joueur qui était à Marseille il y a 2 saisons, qui a joué la saison dernière à Monaco, qui a été une véritable révélation et qui est devenu le défenseur le plus cher de l'histoire cet été, en étant transféré à Manchester City aussi pour 55,2 millions d'euros. À noter que Monaco l'avait acheté l'année dernière pour 13 millions. Donc ils ont fait plutôt une bonne affaire. Là on va passer aux 3 plus gros transferts qu'il y a eu cet été, les 3 plus importants. Il y a 2 français dedans, donc c'est quand même plutôt pas mal. On va parler d'abord d'Ousmane Dembélé, joueur français qui était à Rennes il y a quelques saisons, qui était transféré à Dortmund et qui là a décidé de rejoindre le FC Barcelone pour 105 millions d'euros plus 40 millions de bonus, donc 145 millions, donc ce qui est totalement hallucinant. Ensuite, en deuxième position, il y a le transfert de Kylian Mbappé. Ça aussi, ça fait énormément parler. C'était le jeune prometteur de l'AS Monaco de la saison dernière qui s'est engagé avec le Paris Saint-Germain malgré la volonté de Zinedine Zidane de vouloir l'amener au Real Madrid. Lui a décidé de venir au Paris Saint-Germain. Il a été prêté avec une option d'achat de 180 millions d'euros.
Il est au PSG.
Il est au PSG. Alors, il est prêté 1 an, mais l'option d'achat devient automatique si le PSG se maintient en Ligue 1.
Oh, ça sera pas trop difficile.
Voilà. Donc, c'est un peu du foutage de gueule.
Oui, un petit peu.
Un petit peu, beaucoup même.
Et le plus gros transfert de l'été, bon, je ne vais pas revenir dessus, je vais juste donner l'information, parce qu'on en a énormément parlé, et même moi, j'en peux plus personnellement, c'est le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain.
C'est qui
Neymar? Bon, alors ça a été le transfert...
Neymar Junior.
Ouais, Neymar Junior. Ah bon. Ça a été le transfert qui a fait...
Couler beaucoup d'encre.
Là, ça a fait énormément parler, ça a été un grand n'importe quoi, ça aussi. Il est arrivé pour 222 millions d'euros, ce qui fait de lui donc le joueur le plus cher de l'histoire.
Par contre, l'histoire n'est pas terminée parce qu'il y a eu un dépôt de plainte, il y a eu pas mal de choses pour l'instant.
Alors ça d'ailleurs, ça m'a un peu énervé. D'ailleurs, c'est le Barça qui avait.
T'as réussi à t'énerver ?
Bah, ça m'a énervé parce que je me suis dit, dans la peau du FC Barcelone, qu'est-ce que je ferais à leur place ? Au lieu de critiquer ce que fait Neymar, j'essaierai de le remplacer.
Oui.
C'est d'abord, au lieu de critiquer les choix du joueur, il faut remplacer un joueur. Donc de là, il n'y a pas de plainte à avoir. Il a voulu partir. Les autres, ils ont mis les sous. Ils sont pleins de sous, ils ont mis les sous.
Oui, puis de toute façon, le Qatar,
220 millions, c'est comme si c'était 10 millions chez les autres.
L'année dernière, on a atteint la barre des 100 millions. Ça a déjà commencé à inquiéter certains. Là, maintenant, on arrive à déjà 200 millions comme ça. l'année prochaine, on va faire des transferts à 2 milliards, quoi. Ça continue.
Le foot, c'est plus déjà, c'était déjà plus ce que c'était, mais là, c'est du n'importe quoi.
C'est dommage
grand,
parce
grand,
que
grand n'importe
en
quoi.
En plus, je trouve que au niveau sportif, genre les matchs, je les trouve beaucoup plus intéressants ces derniers temps. Justement, je trouve qu'il y a beaucoup plus de spectacles. Déjà, rien que la Ligue 1, je trouve que ça bombarde assez. Que ce soit, enfin, comme moi, personnellement, quand j'ai regardé les derniers matchs en Ligue 1, bah, je me suis régalé. Quand j'ai regardé, par exemple, bah, PSG-Bordeaux, qui a été un match, même si je ne suis pas fan du PSG, mais Paris, ils jouent excessivement bien. C'est magnifique de les voir jouer. Et quand je vois aussi des matchs comme Nice-Marseille, que j'ai vu hier soir, qui était absolument splendide, qui est pour moi le match référence de cette saison. Voilà.
Après, je pense que regardez
sportivement, c'est bien.
Oui, puis regardez. Bon, le problème, c'est que regardez PSG maintenant. Vu le niveau, ouais, parce que la raclée qu'ils ont
mis au Bayern,
ouais, oui, et puis même au niveau du championnat de France. Hein.
Bah, attention, le championnat de France cette année.
J'ai peur qu'ils soient largement devant, mais que les matchs soient validés d'office.
En fait, ouais, c'est ça. C'est que cette année, je pense que Paris va pas perdre un match.
À mon avis,
les 5-0 à tout le monde. Toutes les équipes qui vont aller au Parc des Princes maintenant, ils vont se taper Messi, Cavani, Neymar et Mbappé. C'est pour moi le meilleur trio d'attaque qu'il y a actuellement en Europe. Parce que vu ce qu'ils arrivent à faire, mettre 3-0 au Bayern Munich, bah, c'est terminé, quoi.
Moi, je peux dire un truc juste.
Justement, t'en penses quoi, Maxime ?
Je pense que, ouais, peut-être pour le championnat, mais ils gagneront pas la Ligue des Champions.
Ah, bah, ça, c'est sûr.
Chauvin, c'est toujours, voilà, jamais les premiers, c'est l'OM.
Exactement.
Il faudra le rappeler. Et voilà, c'était juste un peu de transition, mais... tu sais, pour rappeler
qu'il a tout à fait raison.
Non, non, mais t'as tout à fait raison. Mais par contre, les dirigeants, donc, Qatari, ils veulent absolument gagner la Ligue des Champions. Parce qu'il y a une grosse guéguerre entre, je crois, certains hauts dignitaires justement de là-bas, et pour l'instant l'objectif de Paris, du PSG, c'est de gagner la Ligue des Champions. Donc, oui, pour l'instant,
ils ont le temps pour ça, mais cette année ils la gagneront pas, parce que je vois trop, en fait cette année ça va être encore un énorme bordel. On va avoir Messi qui au Barça va faire une saison de fou, parce qu'il est déjà à 11 matchs en 7 buts. Ah pardon, je suis inversé, c'est 11 buts en 7 matchs.
Ils n'ont pas gagné à Montpellier quand même, donc bon, c'est pas...
En plus.
Voilà. Ouais, mais bon...
Merci Jojo.
Ils ont mis 3-0. Même, ouais, c'est vrai. Ils ont mis 3-0 Bayern, mais ils ont fait match nul contre Montpellier.
Ouais.
Ça, c'est bien. Et ça prouve que sans Neymar, ils font pas grand-chose.
Mais
ça,
justement,
c'est une bonne nouvelle.
Moi, la question que je me pose, c'est au rugby à 13, vous avez autant d'argent comme ça ?
Non.
Nous, on aimerait 0,001% de transfert.
À peu près.
Il y a pas demain, on met le chèque sur la tête et tout, il y a pas de problème.
Ah ben ah. Oui, parce que franchement, quand on voit les sommes qui sont véhiculées,
mais même dans n'importe quel sport. Enfin, à part pour moi, pendant les sports américains comme le football américain, le basket ou le baseball, qui sont des sports où il y a énormément d'argent, je trouve que le foot c'est devenu vraiment du très grand n'importe quoi. Mais vraiment, c'est maintenant en fait c'est le plus riche qui gagne.
Bah, c'est un petit peu coco.
Bah, c'est un peu le système américain. Hein.
Si le PSG ne gagne pas cette année, ils vont.
Bah voilà. Ouais, mais le Real, ça fait 2 saisons qu'il gagne la Ligue des Champions. C'est pourtant le club le plus riche du monde.
Ah oui, alors
bah, oui, mais bon.
Ça veut tout dire. C'est le plus riche gagne.
Voilà, c'est ça.
C'est un peu malheureux quand même.
Oui, Maxime.
Je trouve ça malheureux.
Ah oui, tout à fait.
Le sport, il disparaît là avec leurs millions.
L'esprit sportif, c'est plus le même.
C'est
plus
du tout.
Et ce qui est d'autant plus malheureux, et puis après, on va parler bien sûr de rugby à 13, c'est. On parle beaucoup d'argent dans le football, c'est-à-dire les joueurs sont excessivement riches. Il y a eu des catastrophes naturelles récemment, malheureusement, hein, dans les dom-toms. Mm. Il n'y a pas un joueur de football qui a dit ben, « moi, je vais mettre un peu d'argent pour aider ». Pour aider. Donc après, chacun fait comme il veut.
Après, ça, on le sait pas.
À un moment ou un autre.
Ouais, après, ça,
La fédération de foot aurait dû dire eh ben, écoutez, réunir les présidents ou envoyer un mail, hein, puisque maintenant c'est par mail, en proposant bah, ne serait-ce que 1% de tout ce qu'ils gagnent, de leurs recettes.
Au moins des recettes.
Après, voilà.
Là, pour ça,
il n'y a rien
joueurs,
eu. En fait.
Et puis la dernière chose, c'est par rapport à ce qui s'est passé lors du match de Ligue 1 à Amiens-Lille, où il y a une barrière qui a cédé. Quand vous voyez l'état de vétusté du terrain. Ça fait vraiment peur, quoi, parce que là, vraiment, il y a eu même un stadier qui avait alerté les autorités quelques temps avant. Ils ne l'ont pas écouté. Bon, il y a eu environ 29 blessés. Tant mieux, il n'y a pas eu de mort. Voilà.
Après, enfin, là, il y a une enquête. Après, on va laisser.
Après, ça,
faire
c'est
la
chose. Pour moi, tout le monde est fautif. Que ce soit les Lillois qui sont allés à 20 000 se jeter devant au plus près du stade pour avoir le joueur qui a marqué. Le mec, il a marqué le premier but à la 15e minute. Et déjà, t'es Lillois, t'as pas à te sauter à tout prix sur le terrain. Déjà, pour moi, c'est dangereux. Surtout que c'est des petites équipes. Donc, qui dit petites équipes dit pas forcément gros stade. Donc c'est des stades qui sont
vraiment. Ouais, mais je sais pas si t'as vu l'état du stade, mais il est catastrophique.
Oui. Mais en même temps, c'est des clubs, ils ont pas de budget, ils ont 10 millions de budget. Mais pour leur refaire un stade, ça va leur prendre des années.
Bon, je vois que t'es super motivé.
Mais non, mais c'est la galère pour eux.
Tu vas boire un petit verre d'eau, hein, bien sûr. Parce que ici c'est que il y a de l'eau. Nous on fait une petite pause. Allez, à tout de suite. Said that we would always be. Without you, I feel lost at sea. Through the darkness, you'd hide with me. Like the wind, we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere. Through your
Sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, donc après cette petite pause musicale, Alexandre a pu boire un petit coup.
Hein, Alexandre, ça fait du bien.
Ça fait du bien. Et nous revenons à nos rugbymen. Donc rugby à 13 avec Jean-Marc Terragno, le nouveau coprésident du club. Rebonsoir Jean-Marc.
Bonsoir à tout le monde.
Maxime Pala, manager sportif de l'équipe première et des juniors. Rebonsoir Maxime.
Rebonsoir.
Et Vincent Contal, capitaine de l'équipe première. Rebonsoir Vincent.
Rebonsoir.
Et moi, ma première question concerne un petit peu le rugby à 13, le rugby à 15. Pourquoi Carpentras s'est orienté plutôt vers le 13?
Maxime, le club déjà, il est né en 1938. Alors le 13 avant-guerre, le rugby à 13 était très développé avant-guerre, avant la guerre de 1940. Et donc c'est un sport qui a été, c'est un international qui existe, qui est allé chercher ce sport-là en Angleterre. Et du coup, en France, c'est un sport qui avait un gros essor sur Paris. Il y avait des stades entiers. Qui venaient voir des matchs de 13. Et puis donc voilà, c'est un gros essor parce que c'était un sport qui était plein d'enthousiasme, qui levait les foules, qui avait beaucoup d'impact physique, de la rapidité, de la vitesse. Donc je pense que tout ça, ça a fait que ça a dû démarrer sur Carpentras et ça a démarré au rugby à 13. Voilà. Je pense que ça jouait un peu à 15, mais le 13 a très vite pris ses marques. Et puis on n'est pas les seuls, parce que le Vaucluse, il y a beaucoup de c'est des terres 13istes, quoi, Avignon, tous les petits villages.
Je crois que le seul club de 15, c'est Monteux.
Monteux dans le Comta, oui, c'est le seul. Avec bon, après un peu Caron, Pernes-les-Fontaines,
Cavaillon,
Cavaillon-sur-Sorgue. Ouais. Voilà, il y a du 15 dans la région. Oui, il y a les deux rugby, c'est ça qui est surtout important. Après nous, ben après c'est une histoire. Voilà, c'est 1938.
Oui, le 13 c'est un rugby qui est différent de celui du 15. C'est pas, c'est
plus dynamique, non?
Voilà, c'est un rugby qui est plus. D'abord, vous êtes 13 sur le terrain, vous n'êtes pas 15. Il y a moins de coups de pied. C'est pas le même rugby. Voilà.
Et puis même les joueurs, le gabarit des joueurs. Vous êtes, ça je m'oriente un petit peu vers Vincent, vous avez tous à peu près le même gabarit.
Oui, on a plus un gabarit uniforme, entre guillemets, on va dire qu'on a des gabarits un peu plus athlétiques, parce que on est moins, notre gabarit est moins spécifié par rapport à un poste. Quand on voit une équipe de rugby à 15, on différencie bien le type de joueur. Par exemple le pilier, on va lui demander surtout de la puissance. Après au niveau des centres, et des lignes arrière, ça va être plus un jeu pour perforer les défenses adverses. Tandis que nous, au rugby à 13, chaque joueur doit être capable de combler à peu près tous les postes. Quoi.
Ouais. C'est-à-dire qu'un arrière au 13 peut se retrouver en première ligne sans problème. Ou pas forcément.
C'est rare parce qu'après, quand même, au niveau de la formation, on accentue en fonction des postes. Mais par exemple, un joueur peut très bien, des lignes arrière, peut occuper presque tous les postes. Il peut très bien jouer centre ou sur l'aile. Et un joueur de devant peut être aussi capable de jouer seconde ligne, troisième ligne, ou même dépanner lors de quelques matchs en position de pilier.
Et toi, Maxime, tu as déjà fait du rugby ou...
Eh ben un peu, ouais. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que voilà, je suis un ancien.
Que là, tu es manager, donc tu joues plus.
Je suis manager. Alors, j'ai joué jusqu'à 24 ans, 25 ans.
Ouais.
Première licence vers les 11 ans au stade, à la Roseraie, quoi. J'ai attaqué en Benjamin, moi. Donc voilà, c'est jamais trop tard. Hein. Voilà, c'est la fin de l'école de rugby, sous la houlette de Franck Romano, là, que je salue ce soir. Et j'ai été, depuis l'âge de 11 ans, j'ai toujours une licence au RCC. Quoi. Donc j'ai été joueur.
Tu as été fidèle du début jusqu'à la fin.
Ouais, jusqu'à la fin. Donc j'ai arrêté très longtemps, 9 ans, la pratique du rugby. Et j'ai fait un comeback l'année dernière. Voilà, je me suis fait plaisir parce que j'avais pas fait le deuil du rugby finalement. Et puis j'ai réussi à ranquiller grâce à tous les joueurs, puisque voilà, c'est une grosse famille, quoi. Et donc quand on a ça au trip, on peut faire plein de choses. Donc j'ai fait le comeback, 5 matchs, et puis on a fini en demi-finale.
J'ai
fini dans les bras de Vincent en pleurant, et parce que c'était la dernière fois que je portais le maillot de Carpentras, quoi. Mais vraiment avec fierté, vraiment là, ce soir. Une grosse fierté d'avoir joué avec tous ces jeunes, quoi, parce qu'au final j'ai 34 ans, j'étais le plus vieux l'année dernière et le plus jeune il en avait peut-être 17, donc voilà,
le double.
Que tu as eu entraîné, même
que j'ai entraîné Charlie, oui. Fils de Jean-Marc, oui. J'ai entraîné en premier pas, quoi, en poussin, et puis tu joues au final avec lui, donc c'est ça qui est beau, c'est le passage des témoins, quoi. Voilà.
Ouais. Ouais, et c'était une fierté aussi de l'équipe qu'on puisse jouer avec Max, parce que c'est quand même une personne importante du club. On l'a vu jouer en étant petit, il nous a fait passer des moments incroyables. On se souvient par exemple de l'année où ils sont champions de France en élite 2, on a encore cette image de lui qui marque un essai, et c'est vrai que ça fait la transition entre générations, quoi.
C'est ça.
Ah ouais, t'es si vieux que ça en fait, hein.
Ben 34, c'est pas vieux pour le commun des mortels, mais dans le rugby à 13,
comment il parle, 210 ans, c'est vrai que les petits jeunes sont arrivés, on a vu le doyen qui s'est...
c'était super, c'était une super expérience, donc là maintenant, c'est fini, parce que là vraiment on peut plus courir, mais on va tâcher de rester dans...
Mais là t'as quand même un poste important, manager effectivement sportif, c'est quand même un poste qui... Tu restes assez dynamique dans le club quand même.
Oui, parce que manager, j'aime pas les étiquettes, manager, etc. Bon, vraiment, moi, je me considère comme un dirigeant, mais comme je disais, c'est la famille. Donc, je suis leur frère, je suis leur grand frère. Je suis là pour leur dire quand ils font des conneries, pour leur dire quand ils sont bons. Et puis, c'est essayer que les entraîneurs soient en bonne disposition pour coacher. Les avant, les après-matchs, pour leur faciliter la vie de tous les jours, à l'entraînement ou au jour des matchs. Tu vois.
Parce que c'est vrai que tu fais partie du club. Oui. C'est que ce qui fait la puissance et la force de ce club, justement, c'est cet esprit famille. C'est-à-dire que quand tu vas dans le club, et Jean-Marc, tu peux aussi répondre, c'est que vraiment... déjà, bon, nous on avait eu la chance de faire une rediffusion, une diffusion de match
en direct,
et je pense qu'on va en refaire encore une ou deux cette année. Mais quand on arrive, on n'est pas, on va dire, même si t'es jamais rentré dans le stade, tu rentres dans une famille en fait. C'est-à-dire que tu n'es pas exclu, tu es englobé par une émulation. Et j'ai l'impression qu'il n'y a qu'à Carpentras qu'on voit ça, je ne sais pas.
Je suis assez d'accord avec toi. Et moi, je pense que c'est aussi grâce à ça que le club est vachement remonté ces dernières années. Parce que moi, pour avoir connu maintenant pas mal d'années au RCC, j'y suis depuis 4 ans, j'ai vu donc passer un moment des périodes difficiles. Il y a eu des périodes où c'était vraiment dur. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu cet esprit famille quand même. Toujours cet esprit qui m'a fait rester moi personnellement à Carpentras. Parce qu'il y a quelques années, j'ai failli partir de Carpentras, mais... Je ne pouvais pas parce que justement, c'est comme ma famille. Quoi. Donc, tu ne peux pas partir maintenant. Une fois que tu arrives, une fois que tu arrives là-bas, tu ne peux pas repartir.
Non, parce que toi, Jean-Marc.
C'est vrai, ce que vous dites, le RCC 13, il y a une très, très, très bonne ambiance. En sachant que les personnes qui. Tout ce qui est éducateur, on a très bons éducateurs diplômés. On a quand même 200 licenciés dans ce club. Toutes les personnes sont bénévoles à la buvette. Des gens comme Max Pala, bénévole, c'est des gens qui sont là depuis des années, qui encadrent très bien. Et voilà, comme disait Max, notre capitaine de la première, Vincent, c'est vrai qu'on a un esprit très familial. Quand il y en a un qui a un problème, je veux dire, on est tous là. Hein. C'est l'esprit rugby, en fait, voilà. Et c'est vrai qu'à Carpentras, cet esprit-là, on l'a beaucoup et depuis des années. On a une très bonne école de rugby à Carpentras. On a des premiers pas, on a des poussins, des minimes, des benjamins, une très belle équipe de cadets. Cette année, une équipe junior qui s'est mise en place avec des bons éléments.
Tu dis tu es un junior ce soir en face.
Oui, j'ai un junior à Carpentras.
Ah, t'es passé en junior toi?
Et
t'as grandi
junior,
alors
oui, oui, mais je voulais. J'ai officiellement quitté l'école de rugby.
J'attendais qu'il en parle lui-même.
Non, mais de toute façon, on développera un petit peu plus tard justement l'école de rugby parce que c'est vrai que depuis 3 ans maintenant, c'est vrai qu'elle a pris un essor énorme. Quoi, cette école de rugby, il y a eu gros changements.
Ah oui. Mais bon, comme je vous dis, hein, ils sont bien encadrés. Il y a une buvette, il y a des bénévoles. On a pas mal de licenciés, des gens qui s'occupent de papiers, des documents, des licences.
Voilà, tu as Pierrot Dornan qui s'occupe.
L'école d'Orbi, ouais. Franchement, je tire mon chapeau parce que c'est un monsieur qui s'occupe énormément de ça et qui est indispensable chez nous pour notre club. Xavier Lorca, qui est président aussi, qui s'occupe beaucoup de l'école de rugby. Moi, qui donne ce que je peux, qui suis souvent aussi avec les jeunes de la première sur les déplacements parce qu'il faut les encadrer. Ils sont placés, on y est allé, les voir jouer.
Enfin, voilà, ouais, mais vous, c'était plus pour la troisième mi-temps.
Non, pas du tout, puisqu'il n'y avait rien à boire en plus. Hein. Il pleuvait, il y avait que de l'eau, c'était catastrophique.
Non, par contre, on a pris une bonne horaire.
Le quartier, que... ouais, Vaux-en-Velin faisait, on n'est pas trop resté. Ouais. On est vite parti. Ouais. On a pris la pluie.
Bon, déjà, vous avez gagné.
On a gagné.
Donc déjà, c'était essentiel.
Ah voilà, ouais, pour un premier match, c'est très bien.
Vincent, moi j'avais une question justement par rapport à cet esprit de famille, parce que toi, tu as eu l'occasion de partir du club, tu es revenu, donc tu as connu d'autres clubs à des niveaux supérieurs. Comment tu ressens justement cet esprit c'est la même chose pour toi ou vraiment dans les autres clubs, c'est exactement la même chose?
Non, mais déjà, c'est pas pareil. Carpentras, moi, c'est mon club d'enfance, donc forcément, il y a un sentiment qui est plus fort. Après, sur mes expériences... où j'ai joué à Perpignan, ça tirait plus sur le professionnalisme parce qu'on avait pas mal de joueurs étrangers. Et après, on était quand même professionnels, on s'entraînait le matin et le soir. Donc on essaie quand même de recréer ces conditions de famille, d'entraide, parce qu'après, le rugby, ça fait partie de ses valeurs. Donc si on n'a pas ça, c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'à Carpentras, c'est un esprit particulier et ça nous fait plaisir que vous remarquez ces valeurs parce que c'est un peu notre force, c'est ce qu'on essaye de dégager.
Et à la radio, il faut un leadership, donc c'est moi. Et c'est donc, toi, on fait la pause musicale maintenant. Allez, c'est parti.
Just feel
Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, donc après cette petite pause musicale, nous revenons dans le monde du rugby, le rugby à 13, Carpentras. Alors j'ai regardé un petit peu en préparant l'émission le palmarès de Carpentras depuis ses débuts. Donc j'ai cru comprendre que vraiment les débuts c'était 1948. 38, ouais, mais les premiers titres c'était en 48 avec premier titre de champion de France senior déjà. Et vous avez été 5 fois champion de France senior, ce qui est énorme. Les juniors ont été 5 fois champion de France en 58, donc t'étais pas né Alexandre, même les 3 quarts du temps t'étais pas né.
Bah, y a une date
en 1959, en 1960, en 83 et en 2011.
Ouais, 2011, ouais. 2011, je m'en souviens, ils avaient gagné, il y avait les minimes qui avaient gagné ouais, également cette année-là. Ils avaient une belle équipe, il y avait Charlie, il y avait Arthur, Romano, ouais. Baptiste.
Alors moi j'ai pas tout à fait la même chose parce que les minimes c'était pas en championnat de France, les minimes.
Pas en championnat de France,
la coupe. La Coupe de France, plusieurs
peut-être,
fois.
Peut-être, ouais. Parce qu'en fait, les minimes ont été 4 fois champions de France en 1983, en 1984, en 2009 et en 2013.
Ouais, c'est 2013, voilà. Alors les minimes, ouais.
Non, mais,
même en 83 aussi.
Allez-y. Ouais,
bon, après, là, moi, j'ai plus toutes
2013.
Les dates.
Alors, ouais, minimes, 2013, c'est 2013. Allez-y, ouais.
Le dernier, c'est quand même il y a trop longtemps maintenant. Ouais. Parce que le dernier, c'est 2004. Et 2004.
2004, c'est ça.
C'est moi qui l'ai soulevé le dernier, quand même, tu vois.
Donc moi, c'est l'occasion justement cette année de le soulever.
Il faut, je l'ai dit, les gars, ils écoutent ce soir, on veut sentir du bois, c'est opération planchot. Le planchot, c'est le bouclier, on veut le ramener à la maison, c'est certain. Ben l'année dernière, on a senti le bois pas loin. Voilà.
Oui, c'est vrai.
Vince, c'est arrêté.
Donc en demi-finale, contre Bao, bon, le coup de pas de chance, c'était à Bao. Donc c'est vrai qu'à l'extérieur, contre une des meilleures équipes du championnat français, les deux, c'était pas évident, quoi, mais... Par contre, vous avez quand même bien tenu le schéma tout au long de la saison, quand même.
Oui, c'est ça. L'année dernière, à la fin de la phase régulière, c'est-à-dire à la fin des matchs aller-retour, on a terminé à la 4e position. Et en fait, le problème, c'est qu'il faut terminer dans les deux premiers pour pouvoir recevoir la demi-finale à domicile. Donc l'année dernière, on a un peu loupé notre début de saison, ce qui nous a fait perdre un peu de points et qui nous a fait louper ces deux premières places. Donc cette année, on essaye de bien démarrer ce début de saison justement,
c'est ça.
Pour pouvoir prétendre à la fin de saison à ces deux premières places, pour pouvoir éventuellement recevoir la demi-finale à la maison. Après une finale, c'est 50-50.
Mais par contre, vous avez bien commencé. Le premier match, c'était ce week-end.
Oui, ce
contre
week-end,
Lyon.
À Lyon, à l'extérieur. À Lyon, c'est jamais facile d'aller gagner. Même s'ils sont un peu affaiblis peut-être cette année, parce qu'apparemment, ils démarrent une saison avec pas mal de nouveaux joueurs et de jeunes joueurs. En plus, nous, on a toujours un peu de mal à les jouer. Ils s'accrochent tout le temps. Donc, c'est quand même une bonne performance d'avoir gagné chez eux.
20-26, hein, c'est ça ?
Ouais, oui,
c'est ça. Mais non, c'est super parce que premier match extérieur, c'est toujours une performance. Même si c'est Lyon, en sachant que voilà, on a gagné l'année dernière et ce n'était pas arrivé depuis 10 ans. Donc,
et on avait gagné difficilement.
Difficilement. Donc là, ouais, 26-20, sous la pluie, du début à la fin. Bon, voilà, ce match, on va retenir la victoire, les 3 points. Mais les gars, ils savent qu'il y a encore du boulot.
Parce que l'équipe première, c'était quand même difficile il y a 3-4 ans maintenant. Vous avez quand même fait une traversée du désert. Hein.
Oui, on revient de loin, entre guillemets.
Et oui.
Donc moi, je vais parler depuis 3 ans, parce que c'est à ce moment-là que je suis arrivé. Avant, j'étais moins présent, donc pour ne pas dire de bêtises. Donc moi, je suis arrivé il y a 3 ans. On a eu un début de saison très compliqué. On n'avait pas gagné beaucoup de matchs. Et on avait commencé à bien jouer. Et on allait de mieux en mieux. Et on a fini par faire un quart de finale à l'extérieur. De mémoire, je crois qu'on doit perdre 24-15. On perd dans les 10 dernières minutes à Saint-Gaudens. En plus, l'année suivante, on montait en première division. L'année dernière, on a franchi une marche supplémentaire. On a fait une demi-finale. Toujours en progressant, en s'appuyant sur des joueurs du club, de Carpentras, sur la formation. Et en piochant quelques joueurs des clubs alentours. Donc cette année, si on veut... franchir encore un palier, et il faut qu'on aille en finale, quoi. Mais bon, ça va être un chemin très compliqué parce qu'il y a de très bonnes équipes.
Parce que là, Bao est toujours là. Bao a fait un super résultat ce week-end. Donc, il faut vraiment compter sur eux aussi parce que c'est vrai que ça va être la bête noire parce qu'ils vous ont battu en demi-finale l'an dernier. Comment vous abordez justement cette saison ?
Et alors, au niveau des joueurs, ben, on est quand même dans la continuité parce que 90% de l'effectif a été reconduit. Hein. Mmh. Mis à part, voilà, on a perdu Martial Romano qui part sur l'élite sur Avignon. Il y a une recrue de poids, c'est Joris Cagnac qui vient avec toute son expérience jouer, voilà, c'est des postes importants, qui joue devant, pilier aux troisième ligne. Qui a fini l'élite 1 avec le SOA. Après des retours au club, et ça c'est hyper important pour nous. C'était la formation carpentracienne, c'est le petit Thibaut Santouille, qui est tout jeune, que je félicite ce soir, qui a fait son premier match avec nous à Lyon. Mm-hmm. Et qui a marqué le premier essai. Donc voilà, je félicite. Et puis continue comme ça parce qu'il y a encore du boulot. Des petites surprises, voilà, des joueurs qu'on n'attendait pas, c'est toujours ça, parce qu'après, voilà, quand on fait des bonnes saisons, il y a des joueurs qui veulent nous rejoindre. Et donc, il y a eu des retours des joueurs connus, mais il y a des joueurs moins connus. Là, j'ai fait une petite découverte parce que voilà, je le vois évoluer maintenant, c'est Valentin Lenoir. Mais voilà, c'est des bonnes surprises et va falloir, voilà, qu'il nous étonne encore cette saison. Après, il y a tous nos vieux briscards, hein, qui sont là et c'est une équipe mature, plus mature que l'année dernière, je pense.
Et tu penses, ouais, que justement cette équipe est en mesure de remporter le championnat?
Oui, bien sûr. C'est une histoire de mental. Ce n'est que ça le rugby à 13. C'est hyper compliqué à jouer, c'est dur, c'est éprouvant. Il faut s'entraîner beaucoup, dur, pour faire des gros matchs. Donc si les 17 qui sont tous les dimanches sur la feuille de match se donnent à 100%, on ne peut que gagner. Bien sûr, on perdra des matchs, on en gagnera peut-être très serré, mais le chemin, ils le connaissent maintenant. Puis on est atterri en demi avec une équipe qui était plus faible que notre saison, parce qu'on avait, il manquait qui comme joueur pour la finale?
Il manquait Alexis Rodriguez, Daraz, moi.
Ouais, il manquait pas mal de joueurs. Donc, me dit qu'aujourd'hui, la maturité, les jeunes de l'année dernière, ils sont un peu plus vieux cette année. Ils ont pris de l'expérience et les matchs, les défaites, il faut en apprendre, quoi. Donc, on a, je pense, ils ont emmagasiné de l'expérience. Donc, ça ne peut que donner. Maintenant, voilà, ils le savent, c'est dans leur tête. C'est que dans leur tête. Voilà.
Parce que l'objectif, c'est de gagner.
Quand j'ai compétiteur, oui. Hein.
Voilà.
Mais
par contre, Vincent, je reviens un peu par rapport à la saison dernière. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait toujours des baisses de régime. C'est-à-dire, avant la première mi-temps, vous meniez largement. Souvent, les équipes réduisaient le score de manière importante. Et en fin de match, là, c'était pareil. Il y avait une baisse de régime. Et souvent, ça vous a fait perdre des matchs à cause de ça.
Oui, on avait un problème dans la gestion des rencontres. Savoir gérer nos temps faibles. Mm. Donc là, comme l'a dit Max... On a appris un peu dans nos défaites et j'espère que cette année, ça, on pourra combler ce déficit. Parce que dans un match, dans les temps forts, il faut savoir marquer, mais dans les temps faibles, il faut savoir aussi faire le dos rond et pas prendre de points. Et conserver le ballon, faire des choses simples et attendre nos points forts, quoi. Essayer de marquer par
là. Donc là, tu penses que vous avez réussi à régler ce gros défaut, parce que c'est quand même un gros défaut.
Je pense, ça c'est sur le terrain que l'on verra.
Je crois en cette équipe et au coach et puis derrière, voilà. Puis on n'est pas tout seul, hein, Jean-Marc. Après,
non,
c'est
sûr que bon,
c'est qu'il y a une grosse équipe derrière, donc on a plein d'ambition, quoi.
Voilà, on a, comme il disait, on a une nouvelle recrue, la Cagnac, qui est un bon élément, qui forme bien l'équipe, qui s'est bien intégrée avec les joueurs. Lui avait les joueurs avec lui, donc tout ça, c'est, je veux dire, ça peut faire qu'une bonne recette.
Oui, après,
ce qui s'est passé samedi, oui, pour revenir sur sur Carpentras, l'attitude des joueurs de Carpentras. Bon, après ça, c'est des choses qui se reproduiront de moins en moins, parce que voilà, ils en parlent entre eux, ils font des réunions au niveau de leur entraînement et tout ça. Chacun règle un peu leurs problèmes parce qu'ils le voient eux-mêmes et ils savent très bien que leur pire ennemi, c'est eux-mêmes. Donc, je pense qu'il va falloir qu'ils se reprennent un peu s'ils veulent avancer. Mais pour ça, moi, je leur fais entièrement confiance parce que je les connais depuis des années. Donc, je pense qu'ils sont capables de nous sortir quelque chose cette année, une petite surprise, une bonne surprise. Donc, ça a bien commencé. J'espère que ça va continuer pour ce week-end. Et puis après, on va partir dans les endroits un peu plus dangereux, hein, Vincent.
Oui, on a
une équipe un peu plus qui sont plus, par contre, je pense, c'est les mêmes qu'ils ont rencontrés l'année dernière, qui ont changé.
Ouais, on a un début de championnat compliqué parce qu'on va à Lyon, qui n'est jamais une équipe facile à l'extérieur. On reçoit Entraigues lors du derby, qui n'est jamais un match facile. Et après, on va chez Villegayen, qui est la réserve de Limoux et qui s'est drôlement renforcé, qu'on a battu l'année dernière en quart de finale de très très peu. Et c'est une équipe très très compliquée, très très physique. Et il faut être à 100% de ses moyens et pour espérer gagner un match. Et en plus, là, on va se déplacer chez eux. Donc, ils auront à cœur de gagner leur premier match à domicile. Donc, on aura un très gros match. Donc, il va falloir à tout prix qu'on gagne pour arriver invaincu chez eux et essayer de rapporter des points de l'extérieur, encore une fois.
Mais la motivation y est.
Ah, oui, mais toujours. Oui. Toujours.
Ah, mais Carpentras, c'est ça, c'est un grand cœur. Quand ils partent, c'est pour gagner.
Voilà. De toute façon, on ne peut pas se cacher. On a des objectifs, des ambitions. Il faut se donner les moyens d'atteindre ce que l'on s'est fixé.
Ils vont nous faire revenir dans les tribunes. On va les re-remplir.
Ah, ben ça, j'en suis convaincu.
Ah, mais oui, on va les re-remplir, ouais.
Allez, on fait une petite pause, la dernière, et on se retrouve juste après ça.
Qui a vu le cœur donner le monde, a le cœur déchiré. Il aimerait tellement aimer. Mais les hommes, où t'ont-ils?
Avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà. Je vais y arriver, c'est la première de l'année, c'est pour ça. Nous rentrons dans la dernière partie de l'émission avec nos invités Jean-Marc Terragnaud, Vincent Conta, Maxime Pala. Donc déjà, on a vu une bonne partie de l'équipe, la nouvelle équipe. Mais il y a également une nouvelle direction, une nouvelle présidence. Alors, c'est ça Jean-Marc Terragnaud, si j'ai bien compris. Donc oui. Toi, tu es un des co-présidents et vous êtes trois au total.
Oui, c'est ça. Oui, on est trois au total.
Les deux autres, c'est ?
Alors, c'est Xavier Lorca et Bruno Boubi.
Voilà. C'était vraiment une volonté d'avoir ces...
Oui, d'être trois, oui. Pourquoi d'être trois ? Parce que je pense que c'est intéressant d'être à trois. Tout seul, c'est assez compliqué. C'est compliqué de... On se partage un peu. À trois, tu peux te partager les tâches. Voilà. Ça, c'est bien. Et en plus d'être trois, on est en plus de ça bien entouré. Par Pierre Dornan, Pierrot.
Oui, il y a pas mal de gens qui sont rentrés
voilà,
cette année.
Cindy, Linda, toute la partie.
Il y a combien justement de personnes qui vous aident dans l'ombre hein.
Je crois là, dans le bureau, on est 24. Presque une petite trentaine.
Ouais, 25, c'est ça. Ouais.
25 personnes ouais, c'est qui. Ça.
Ah, oui, oui, tout le monde est bénévole, oui, bien sûr. Tout le monde prend
non, mais c'est vrai que c'est important de le dire parce qu'ils prennent de son temps. Quoi.
Le RCC 13, oui, tout à fait. Ouais. Ah oui, c'est tout.
Donc ça vous met la pression, Vincent, hein? Là, parce qu'avec tous ces bénévoles qui viennent travailler pour vous, justement, c'est...
Oui, en plus, moi, par la même occasion, je suis rentré dans le bureau pour faire un lien dirigeant, joueur, équipe première. Mm-hmm. Donc moi, il y a un lien direct qui peut se faire.
Ah, c'est donc ça, c'est,
communication,
ça, c'est important. Oui, oui, tout à fait. Et c'est important qu'il soit dans le bureau avec nous, Vincent, pour ça. Oui,
justement. Ouais, on est rentré avec deux joueurs, il y a Ludovic Mouton, Trai et moi.
Parce que justement, l'an dernier, c'était Jean-Pierre Gouret qui a été président pendant de nombreuses années.
Tout à fait, ouais.
Et donc, il a laissé sa place. Donc, ce changement, c'est positif.
C'est un passage de témoin. Bon, on salue Jean-Pierre parce qu'il va écouter, il est pas loin.
Oui, on l'écoute.
Et on l'aime beaucoup et on sait ce qu'il a fait pour le club. Et je pense que tous les Carpentraciens, toutes les personnes du club le savent. Puis, ben, merci Jean-Pierre pour tout ce que tu as fait. Donc, ça. Et puis, mais bon, il est pas trop loin de nous.
Non, il est pas trop loin de nous.
Il est
toujours dans l'ombre.
Il est bienveillant. C'est important.
Il est toujours là.
On est toujours content quand il passe nous voir aux entraînements.
Exactement. Il voit tout le monde aux entraînements. Il suit les petits, les jeunes, tout le monde.
Alors, petite information. On attend une confirmation. Peut-être qu'il y aura donc une rediffusion du match sur RTVFM sur le 102.2 à 15h.
Ah,
donc, voilà. Donc, on confirmera ça sur la page Facebook de la radio. Comme ça, ça permettra justement de pouvoir que nos auditeurs qui ne peuvent pas se déplacer puissent suivre ce match.
Sur le match,
ce derby, hein,
tout à fait. Ouais. Hein, et puis pour les Carpentaciens qui sont pas Carpentins, puisqu'on peut vous écouter sur Internet.
C'est ça. Oui, dans le monde entier.
On a des supporters dans le monde entier, en Australie, en Nouvelle-Zélande, des anciens joueurs qui nous suivent sur la page Facebook.
Alors, juste, on va revenir en parler un petit peu du club, parce que c'est vrai que malheureusement l'émission passe vite. Ce que je vous propose aussi, donc je te propose Jean-Marc, c'est de vous réinviter courant fin octobre, début novembre pour parler de l'école de rugby.
Tout à fait, oui.
Parce que personnellement j'y tiens, parce que c'est vrai que c'est grâce à l'école de rugby justement qu'on peut arriver à
avoir des éléments de qualité
justement. Mais par contre on va vraiment parler justement, on va finir l'émission pour parler du club en lui-même, parce que c'est vrai qu'il y a eu un gros changement, la présidence. Au niveau des orientations politiques du club, est-ce que vous avez engager les mêmes orientations, ou est-ce que vous avez orienté un petit peu différemment justement les...
À quel niveau ?
Au niveau sportif ?
Oui, là on est en train de changer au niveau sportif. Après, moi je m'occupe plus de... Côté sportif, c'est plus Max qui s'occupe de Après, nos éducateurs, d'ailleurs je tiens à remercier Olivier Roustan.
Ouais.
Qui est un très bon formateur au RCC13, qui est vraiment du cœur à le féliciter pour tout ce qu'il fait depuis des années avec ces jeunes. C'est un personnage qui s'implique énormément.
Ça fait combien de temps qu'il est au club ?
Olivier, ça fait
3 saisons.
Ouais, 3-4 ans.
Non, plus.
Hein, ouais.
Plus, ça fait 6-7 ans. Sa première année, j'étais en Benjamin.
Ouais, bah c'est.
Sa première année,
Tous les petits qui sortent de chez lui, bon après.
Voilà, moi j'en sors. Mais...
Ouais.
C'est ça. C'est vraiment un bon élément, Olivier Restant.
La prochaine fois, peut-être, il y aura Xavier Lourca qui pourra venir et parler
L'école de rugby.
Il pouvait pas venir ce soir.
Il a pas pu, il s'excuse d'ailleurs, il a pas pu venir sur cette émission.
Il est tout excusé parce que bon, on aura l'occasion de le revoir. Et puis là, on avait 3 éléments de qualité.
Oui. Allez, merci.
Et Bruno Boubi aussi, ne l'oublions pas, bien sûr. Ah, oui. Il sera là la prochaine
fois. Et donc, Bruno Boubi, il est
le 3e président.
Ah, d'accord.
Et oui.
La coprésidence, c'est pas évident quand même, les coprésidents. Mais ça commence à se généraliser, donc c'est vrai que c'est pas mal. C'est un truc à étudier. Et puis ce que j'ai retenu aussi, c'est le fait que des joueurs puissent intégrer le bureau, parce que souvent, on dit qu'il y a toujours, on va dire, une barrière entre
les joueurs,
la présidence, que vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde. Je ne parle pas au niveau du club de Carpentras, mais au niveau général, c'est vrai que.
Tout à fait.
Voilà, donc.
Là, c'est pas le cas chez nous, tu vois.
Ben non, ça se voit, et ça c'est pas mal.
Comme je te dis, c'est la famille. Voilà.
Je tiens quand même à remercier tous nos partenaires aussi, parlons-en, parce qu'on en a besoin au niveau de notre budget. Notre plus gros partenaire, vous savez très bien que c'est la ville de Carpentras, je vous remercie. Hein. Mais bon, après, autour, on a plein de petits sponsors. On a plein de petits sponsors qui nous suivent, qui nous aident. Et bon, je demande à tous qui veulent nous rendre service, nous aider. Voilà quoi, on est là, le RCC 13. On va faire une superbe week-end. Un superbe week-end là, prévu là, entre Carpentras.
Moi, dimanche à 15h.
Tout à fait, j'ai dimanche à 15h.
Très bien. Voilà. Je suis obligé de te couper parce que nous, on va te rendre l'antenne.
D'accord.
En tout cas, merci beaucoup à tous les trois. Merci Valérie, merci Alexandre.
Bonne soirée.
Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.